des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, on parle du couple, mais attention, pas la figure du couple de personnages romanesques, Lancelot et Guenièvre, Manon Lescaut et Desgrieux, Nemours et Clèves, Roméo et Juliette, ou que sais-je, Tadzio et Gustave dans La mort à Venise. Non, nous parlons du couple d'écrivains. D'écrivains qui se mettent à deux pour écrire un livre. Couple, le mot est peut-être fort, quoique il suffit aussi, après tout, en littérature comme en amour, de concevoir un avenir commun, le temps d'une œuvre peut-être à accomplir. Deux fois deux écrivains aujourd'hui dans le temps des écrivains, Nicolas Fargue et Yegor Gran, et Thomas B. Reverdy et Sylvain Venère. Nicolas Fargue et Yegor Gran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à ma droite. Vous publiez Écrire à l'élastique chez POL. C'est un récit qui prend les apparences d'une correspondance ou une correspondance qui prend les apparences d'un récit. Yegor Gran est à Paris, il est marié et il écrit à Nicolas Fargue qui est à Wellington en Nouvelle-Zélande et qui lui est célibataire. Nicolas répond à Yegor entre les écrivains, entre l'auteur de One Man Show et de Tu verras, prix France Culture Télérama,
oui, c'est 2011.
Ça, voilà, je le rappelle, et celui de La revanche de Kevin et d'ONG qui avait lui obtenu lui
le Grand Prix de l'humour noir.
Le Grand Prix de l'humour noir. C'est deux conceptions de l'homme qui s'affrontent, deux conceptions des femmes aussi, bref, deux conceptions de la vie. Tout cela est dit par lettres de Paris aux Antipodes et des Antipodes à Paris, dans une complicité épistolaire qui s'efforce de dire le monde d'aujourd'hui. Écrire à l'élastique, ça sonne presque comme l'injonction d'un manifeste.
Oui, alors là, l'élastique...
C'est Yegor Gran qui parle là.
Oui, l'élastique, en l'occurrence, c'est Nicolas qui, s'ennuyant à Wellington, se met à sauter en élastique. Ça, c'est le premier élastique. Le deuxième élastique, bien sûr, c'est l'élastique qui le ramène à Paris, l'élastique invisible hein, qui le tire depuis son Wellington, là où on ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il y a une femme qui est restée à Paris. Nicolas a un problème avec les femmes, il faut dire, déjà.
Alors, ça d'accord, Yegor Gran, pour élastique, mais c'est quand même écrire à l'élastique, comme si ça présupposait voilà, une injonction littéraire, un conseil, un principe.
Oui, c'est un livre sur l'écriture,
Nicolas
c'est un livre
Fark.
sur la façon dont on peut se mettre à écrire un livre à partir de rien ou d'un prétexte narratif un petit peu arbitraire. L'élastique, ici, c'est sortir de sa zone habituelle du moi-jeu de l'écrivain pour essayer de répondre à ce que l'autre vous propose.
L'élastique est tendu entre les deux auteurs.
Entre les deux auteurs, et c'est également un élastique vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire jusqu'où peut-on pousser ses propres capacités à s'éloigner de ce qu'on a l'habitude de faire en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que moi, je suis stimulé par Grégor à l'intérieur de ce livre à essayer autre chose, comme Yegor répond à aux pistes que je lui tends, aux perches que je lui tends, et tout ça dans une improvisation depuis le début de cette correspondance jusqu'à la fin.
Et on va voir, et la fiction s'en mêle aussi. Bonjour Thomas Reverdy et Sylvain Venère.
Bonjour.
Alors vous publiez Jardin des colonies, c'est chez Flammarion, c'est l'histoire d'un jardin qui est lié à l'actuelle cité de l'immigration, anciennement palais permanent des colonies, c'est comme ça que ça s'appelait.
Oui, c'était le palais permanent des colonies.
C'est Sylvain Venère qui parle.
Qui avait été inauguré pour l'exposition coloniale de 1931 et qui est aujourd'hui toujours un des rares bâtiments de cette expo qui reste juste à côté du bois de Vincennes, à la Porte Dorée.
Et Thomas Reverdy, vous dites que c'est plutôt palais persistant des colonies qu'il faudrait le garder comme nom.
Oui, parce qu'en fait, il a connu des fortunes diverses. Il a plusieurs appellations, plusieurs musées se sont installés dedans. Il y a guère que l'aquarium, en vérité.
Très bel aquarium.
Depuis le début,
Alors c'est l'histoire de ce jardin qui est, ou de la possibilité peut-être de ce jardin, la possibilité d'un livre aussi, et presque d'une île, puisque vous dites que ce jardin est une île, qui est troussée par deux personnages. Un écrivain désireux d'y trouver l'inspiration pour un roman d'aventure, c'est ce qu'il veut écrire au départ, et un jeune chercheur en histoire. Alors, c'est une sorte à la fois de quête d'un personnage qui a existé, qui s'appelait Jean Thaddée Dybowski, qui a fondé ce jardin, descendant d'aristocrates polonais, aventurier du temps des colonies, qui dirigeait une mission au Congo, aussi scientifique que sanglante, puisqu'il il était chargé aussi de punir ceux qui avaient massacré les premiers explorateurs. Il organisa aussi l'exposition coloniale de 1907, vous le dites à la façon d'une sorte de pionnier de l'entertainment, comme on dirait aujourd'hui. Et alors, ce qui est très différent du livre de Yegor Gran et Nicolas Fargue, c'est que c'est un livre qui est écrit donc à quatre mains. Thomas Reverdy, vous êtes auteur, vous, de six romans, dont Il était une ville, qui a obtenu le prix des libraires en 2015. Et Sylvain Venner, vous êtes plutôt historien, en fait. Vous publiez des livres d'histoire, plutôt d'ailleurs, vous êtes historien.
Je suis historien.
Les origines de la France, je cite, et Une guerre au loin, Annam, 1883, qui a obtenu le prix Augustin Thierry des rendez-vous de l'histoire. Il n'y a qu'une seule voix, en fait, contrairement à vous qui correspondez, Nicolas et Yegor, un seul narrateur, deux personnages, puisque l'écrivain et l'historien sont là. Qu'est-ce qui a conduit à rapprocher vos deux univers ? Pour Sunir, c'est assez rare, peut-être même unique, un historien et un romancier pour un livre qui est une fiction.
Il y a beaucoup de réponses possibles à apporter à cette question. Il y en a une qui est le fait qu'avec Thomas, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant et qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. C'est aussi une question de désir et d'amitié, comme vous le disiez au début. Ces couples-là reposent quand même beaucoup là-dessus. Et puis moi j'avais ce dossier sur ce personnage de Dybowski et
C'est vous qui aviez le dossier.
J'avais le dossier. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est dit dans le livre sur le dossier jaune des archives, c'est pas Thomas qui est allé le chercher.
Thomas Reverdy.
Ouais, ben je crois que c'était pour nous aussi une forme de challenge, un défi, une sorte de...
Ah oui, disons défi ici, ouais, sur cette antenne. Hein.
Un défi qu'on se lançait tous les deux, à la fois Sylvain qui, je pense, a pris beaucoup de plaisir à profiter des libertés du genre romanesque, et moi qui ai pris aussi, qui suis un lecteur d'essais, et qui ai pris beaucoup de plaisir aussi à me rapprocher de son écriture à lui, et à essayer de faire avec une matière pour moi inhabituelle, et avec une réalité qui, pour une fois, avait des réponses à offrir. D'habitude, quand j'ai un personnage qui est un peu coincé dans une situation, il n'y a que moi qui peux décider comment l'en sortir. Là, j'avais quelqu'un, j'avais Sylvain, que je pouvais appeler
avec
au téléphone.
Dossier.
Il regardait dans son dossier et il avait des réponses. C'était génial.
On va évidemment creuser, hein, et puis on vous demandera comment vous avez même concrètement travaillé, concrètement écrit. En tout cas, merci à tous les quatre de participer à ce temps des écrivains consacré à l'écriture dite à quatre mains. Est-ce qu'elle vous convient, d'ailleurs, les uns et les autres, cette appellation qui a en elle quelque chose de musical? On pense évidemment au piano. À deux, c'est mieux, Yegor Gran?
C'est autrement. Alors, à quatre mains, moi je dirais aussi à deux nez, à quatre oreilles, voilà. C'est une expérience exaltante. C'est la première fois que je fais ça, j'avais pas d'affinité particulière. Nous, les écrivains, généralement, hein, en tout cas, on se rêve comme des solitaires enfermés, en train de souffrir. Et là, c'est au contraire une ouverture vers l'autre.
Oui, moi c'est pareil pour moi. J'avais aucune envie de travailler en équipe, ça m'intéresse pas. Le sortir de ce que moi je crois savoir faire et de ce qui jusqu'ici m'a convenu au sens restrictif du terme. Quand Yegor me l'a proposé, je me suis dit zut, c'est pas une bonne idée, je vais pas y arriver parce que j'ai pas envie de travailler.
C'est lui
le grand responsable de ce livre. Et puis en fait, en se laissant prendre au jeu, on se rend compte à quel point les possibilités sont infinies. J'ai découvert moi, c'est mon 11e livre. Que je pouvais finalement écrire à partir de n'importe quoi. Jusque-là, je pensais avoir un domaine qui m'était propre. Et puis, en fait, votre ADN en tant qu'écrivain existe partout. Dès lors que vous essayez à autre chose, que ça soit à deux, que ça soit sur un essai, n'importe quoi, je pense que c'est ça que j'ai découvert, en tout cas, à la faveur de ce livre.
Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, disons en face ou à côté, d'ailleurs, comment dire, je ne sais pas. Mais sur cette expression à quatre mains, le fait on pense à l'autre en permanence, on le défie.
Dans le cas de cette relation, en tout cas avec Yegor, c'est la volonté en permanence de plaire à l'autre, de mériter son amitié, de mériter sa confiance. Donc de se surpasser soi-même avec l'autre pour premier interlocuteur.
C'est votre cas, Thomas Reverdy et Sylvain Venner?
Alors dans mon cas, pas
Sylvain.
Du tout, parce qu'en fait moi j'ai déjà l'habitude de l'écriture à quatre mains à plein de niveaux. Il m'est arrivé d'écrire des articles et des chapitres d'histoire avec un collègue, ça c'est quelque chose de possible. Je suis par ailleurs scénariste de bande dessinée, donc j'ai l'habitude de travailler avec des dessinateurs.
Je ne l'ai pas mentionné.
Mais c'est très différent parce que chacun arrive avec sa compétence, moi ne pouvant absolument pas faire un dessin. Et j'avais déjà aussi écrit un livre à quatre mains, même si je crois que l'expression n'est pas terrible, avec Patrick Boucheron, qui est historien aussi, mais qui était un livre un peu original puisqu'on se projetait dans le futur en 2058 pour essayer à partir d'une fable de réinterpréter des problèmes qui avaient été liés à une petite affaire
historiographique. C'était quel livre,
rappelez-nous. Ce livre s'appelait « L'histoire au conditionnel ». Donc c'était pas vraiment une surprise, c'est plutôt quelque chose d'assez naturel d'écrire à quatre mains. Là, ce qui était original, c'était de le faire avec quelqu'un qui se définit précisément comme un écrivain, à partir d'une forme qui est la forme du roman, puisque les historiens écrivent, la part de l'écriture dans l'histoire, elle est extrêmement importante, non seulement dans le compte-rendu du résultat de recherche, mais dans la production même de la recherche, on le sait. Il y a beaucoup de travaux intéressants sur ces questions-là. On ne produit pas le même savoir historique à partir d'écritures différentes. Et ce qui était intéressant, c'était de voir ce que changeait le roman. Et même si on peut trouver que dans un roman comme le nôtre, finalement, qui est, comme dit volontiers Thomas, un roman un peu à la mode du XVIIIe siècle, il y a peu d'intrigues. Il n'empêche qu'il y a des personnages.
On converse beaucoup, on devise. Oui, il y a des personnages. Thomas Reverdier, sur ce côté, est-ce que le savoir-faire romanesque, comme le savoir-faire d'historien, ou le savoir de l'historien, est modifié aussi par cette expérience? Est-ce que vous souscrivez d'ailleurs à cette expression? Est-ce que ça s'est fait comme ça?
Oui. Ce qui était frappant dans notre façon de fonctionner et d'écrire à deux, là, c'est qu'on faisait, évidemment, pour essayer d'avoir une seule voix, puisqu'on a un seul narrateur, on faisait des allers-retours constants, multiples. Parfois, on doit arriver jusqu'à plus de 10 ou 15 versions pour un chapitre. Enfin, c'est.
Il y a un aller-retour, vous envoyez.
On a commencé dans une maison à la campagne en vivant ensemble, quoi, en l'écrivant vraiment ensemble, parce que sinon, je crois que ça n'aurait pas pu prendre. Et puis ensuite, on a poursuivi ce travail par mail en faisant des allers-retours quotidiens. Enfin, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu. En plus de l'amitié, une forme d'estime mutuelle et réciproque.
Ce dont vous parliez, Nicolas et Yegor.
Voilà, exactement. Qui se doublait ici, effectivement, de champs de compétences différents, qui faisaient que il y avait aucun scrupule et aucun orgueil non plus. Enfin, à modifier le texte de l'autre, à revenir dessus, à se donner des conseils, etc., etc.
Est-ce que on va plus loin que seul? Est-ce que ce travail à deux nous oblige, au-delà de l'admiration, ou peut-être à cause de celle-ci, de l'obligation de plaire à l'autre, ou l'envie de plaire à l'autre, de sortir de son jeu habituel? Vous disiez, Nicolas, j'ai découvert que je pouvais écrire sur n'importe quoi. C'est ce déclic-là, c'est cet élastique qui a permis l'élargissement du champ, et Yegor, c'est pareil pour vous?
Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'inconnu, en fait. C'est-à-dire que en principe, j'écris un livre, je sais où je vais. Mais là, non. Je ne savais pas. C'est-à-dire, je savais à peu près. Je savais pour les 3 prochaines pages. Mais j'avais aucune vision du long cours. Et c'était ça qui était exaltant. C'est-à-dire que ma proposition narrative, que je lançais, un personnage, par exemple, ou une brosse à dents, que je lance dans une lettre, Nicolas peut le reprendre dans la suivante ou pas, et me proposer autre chose. Il peut décrire un de mes personnages d'une manière complètement différente, et moi je vais me retrouver avec un personnage en quelque sorte transformé. Moi je le crée, et puis Nicolas le transforme. Et j'aurai à rebondir sur ses propositions à lui.
Et surtout, là, vous êtes déjà dans la fiction, on va en parler, puisqu'évidemment la fiction se greffe à cet exercice de correspondance.
Oui, absolument. Ce que le lecteur doit bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu, contrairement à ce que Thomas Reverdy vient de signaler, il n'y a pas eu de retravail à partir de notre texte. Il y a eu juste du relissage, chacun les petites fautes de coquilles.
Touchant sa copie à lui, pas
celle de l'autre. Touchant sa copie à lui, oui, et essentiellement, il peut y avoir parfois, mais ça a été rarissime, des propositions de changer un mot, de changer une phrase, mais le principe, c'est un exercice littéraire un peu particulier qui est de se laisser aller à l'improvisation littéraire. C'est-à-dire que cette correspondance commence en janvier 2016, elle se termine en fin juin de la même année, et l'ordre des 38 lettres est exactement celui qui a été le nôtre
chronologique.
Et le contenu de chaque lettre, si on regarde bien de près, on se rend compte qu'il y a plein de pistes qui sont lancées à chaque lettre, et ensuite libre à l'interlocuteur en face, à l'autre bout de la planète, de rebondir ou pas.
Thomas Reverdy et Sylvain Venner, plutôt Thomas Reverdy d'ailleurs, le romancier plutôt que l'historien. Généralement, c'est vrai, on parle d'un auteur, même si Barthes a théorisé la mort de l'auteur. Généralement, il y a un auteur unique, une sorte d'idéologie de l'ego qui est nécessaire d'ailleurs pour écrire, puisque personne ne nous demande d'écrire. Il faut avoir envie soi. Un éditeur ne peut pas extirper un livre de quelqu'un, pas encore. Est-ce que vous diriez, Thomas Reverdy, qu'un nouvel auteur, grâce à Sylvain, est apparu en fait, qui serait pas Thomas Reverdy et Sylvain Venner, mais peut-être Revenner ou Venerdy?
Ah, écoutez, c'est vrai que Je pense que ce roman restera dans chacune de nos bibliographies un peu particulier. Ouais. Et qu'effectivement, à la fois, on s'y reconnaît, on reconnaît l'autre. De temps en temps, moi-même, j'ai du mal. Je pense que Sylvain, lui, comme il est historien, il a dû garder toutes les versions sur son ordinateur. Mais moi, j'ai parfois du mal, j'avoue, à me souvenir de... Mais cette phrase-là, elle était comment au début? Comment est-ce que Sylvain me l'a transformée? Qu'est-ce qui s'est passé?
On va faire de la critique génétique. Avec vous, Sylvain.
Oui, c'est vraiment pas du tout la même méthode que la vôtre, puisqu'effectivement, les textes ont été beaucoup refaits. Et puis, il faut voir que nous, on avait un projet au départ qui était aussi un projet politique. Il s'agissait d'interroger ce qui reste de la mémoire coloniale dans la France d'aujourd'hui. Et alors même qu'on avait ce projet ensemble, qui pose déjà un problème, parce qu'il n'est pas évident que Thomas et moi ayons sur cette question-là exactement la même opinion.
Ce qui apparaît dans le livre, entre le romancier... et le jeune historien.
Oui,
on devise beaucoup.
Oui, mais ce romancier et ce jeune historien ne sont pas exactement le jeune romancier et le vieil historien qui ont écrit le livre.
D'ailleurs, c'est un vieux romancier.
C'est un vieux romancier.
En plus.
Et parce que, pour des raisons qui arrivent aussi au fur et à mesure de l'écriture, mais il y a aussi autre chose, c'est que quand on est dans cette maison de campagne et a commencé à rédiger ce livre, on est le 12 juillet 2016. Et que deux jours après avoir commencé à écrire, c'est l'attentat de Nice. Qui nous a énormément frappés. Et les attentats ont fait irruption dans ce livre alors que ça n'était pas prévu, ça, par exemple.
On va en parler, ça, avec vous, effectivement, puisqu'il est question d'interroger la mémoire des colonies, des temps coloniaux, et puis leurs conséquences dans la France d'aujourd'hui. Et effectivement, aussi, il est question des attentats. Et vous reliez ça, alors... Les deux personnages débattent entre vous. On a bien compris que les deux personnages ne sont pas l'historien Sylvain Venner et le romancier Thomas Reverdy, puisque le romancier est un vieux romancier, il a 60 ans, ce qui n'est pas l'âge de Thomas Reverdy, et un très jeune historien, beaucoup plus jeune. Il est en formation, cet historien.
Je crois qu'on dit qu'il a même pas 30 ans.
Voilà. On va continuer avec vous. On commence avec Nicolas Fargue et Yegor Gran. Écrire à l'élastique, c'est publié chez POL. On écoute d'abord alors votre choix musical. Vous m'avez dit, Nicolas, que c'était une surprise pour Yegor Gran. Vous n'avez pas choisi ensemble cette musique.
Non, parce qu'on continue, Yegor et moi, à vouloir se surprendre, parce que l'amitié dure au-delà de ce livre. Elle s'est même peut-être faite véritablement après l'écriture de ce livre. Donc voilà, je voulais réserver une surprise à Yegor, qui lui-même m'avait dit... Son premier choix qui était avoir un bon copain d'Henri Gara, mais...
Yegor. Très bien. Et dans un couple, il faut savoir se surprendre. Vous avez choisi Pierre Barou, Paris Wellington. On écoute.
Elle est des antipodes. Vraiment, c'est pas commode. Et bien malin, qui pourrait savoir quand je vais la revoir. Elle est partie pour Wellington, c'est loin Paris de Wellington. Si je lançais la mode d'aimer aux antipodes, combien d'amis je retrouverai lorsque j'arriverai à Wellington, à Wellington. C'est loin Paris de Wellington. On devrait faire un code pour que des antipodes on trouve enfin comment se parler.
Pierre Barou, Paris Wellington, c'est le choix de Nicolas Fargue pour Yegor Gran, avec lequel il a écrire à l'élastique. Correspondance entre deux écrivains, écriture à quatre mains, c'est chez POL.
Pourquoi cette disait il faut se surprendre en amitié comme en amour.
Oui, il faut se surprendre en amitié, renouveler, désherber chaque jour. Donc voilà, Yegor, au nom de notre amitié si chère.
Pourquoi, voilà pourquoi Pierre Barou
Pierre Barou, non, en fait, je me suis souvenu au moment où vous nous avez demandé de choisir un titre. Je me suis souvenu qu'en Nouvelle-Zélande, en tapant Paris Wellington, alors vous avez d'abord les vols qui arrivent, et puis vous avez cette chanson de Pierre Barou. C'était le mari d'Anouk Aimée, celui qui dans Un homme, une femme joue le rôle du cascadeur qui meurt. Bon, bref, et qui permet à Jean-Luc Trintignant d'aimer en toute liberté, si je puis dire, Anouk Aimée. Et bien Pierre Barou, qui a importé notamment la musique brésilienne en France, qui l'a francisée, a chanté cette chanson. Je ne la connaissais absolument pas avant d'être en Nouvelle-Zélande. Et je m'en suis souvenu au dernier moment, avant-hier, lorsque vous nous avez demandé.
Je rappelle, évidemment, Wellington étant la capitale de la Nouvelle-Zélande, où vous vous rendez, voilà. Vous, tandis que Yegor, Gran, reste à Paris. Alors, écrire à l'élastique, ce croisement de plusieurs genres littéraires, c'est à la fois un roman épistolaire, c'est à la fois un journal intime, double journal intime, une autofiction, une fiction aussi, une pure fiction parfois. Un jeu d'écriture, au départ, c'est une expérience de correspondance entre donc Nicolas Fargue, expatrié en Nouvelle-Zélande, célibataire et qui, je cite, « couche comme il respire », et Yegor Gran, marié depuis 22 ans, époux et père de famille heureux. Les deux écrivains s'apprécient beaucoup, c'est le cas dans la vie, je suppose. Ah oui. On ne se lance pas dans une expérience comme ça si on s'apprécie pas un peu.
On s'appréciait sans vraiment nous connaître. Enfin, j'avais lu certains livres de Nicolas, Nicolas avait lu certains de mes livres, on s'appréciait en tant qu'écrivain. On avait parlé, bien entendu, un petit peu avant, mais la vraie amitié, je crois qu'elle est apparue en écrivant le livre et après coup.
C'était d'abord une amitié littéraire, enfin, par
c'était
livre.
C'était un éditeur en commun, d'abord. Ouais. On se connaissait à l'occasion
Paul Tchaïkovski,
de...
Laurence.
Oui, voilà. Ouais. POL, on s'est connus lors de voyages en train, pour aller à des salons du livre, des choses comme ça, mais Yegor a tout à fait raison de le préciser. Elle est née avec ce roman, donc elle est née aux antipodes, cette amitié, et elle s'est confirmée, surtout, depuis.
Alors, ils sont différents, ces deux écrivains, quoique partageant, disent-ils, la même condition d'abonnés à la classe écho de la notoriété. Et cette condition les fait regarder d'un œil curieux, ceux qu'ils appellent les Michel-Philippe Hank-Schmidt, par exemple, évidemment, mot valise pour tous les écrivains best-sellers. Et c'est l'occasion, ce livre, de parler de la condition de l'écrivain, mais aussi de l'exil volontaire, de l'inspiration, de la famille, des femmes, notamment des femmes stupides, Nicolas Fargue. Alors là, c'est évidemment ironique.
Oui, oui, c'est quand même un livre qui est aussi une farce, une pochade. Et on a voulu se jouer aux deux bons potes qui n'hésitent pas à grossir le trait sur la question des femmes. Voilà,
on
ça comme ça.
Plein d'autodérision aussi. Est-ce que cette expérience de couple littéraire n'a pas finalement pris le pas, peu à peu, sur la vraie vie, en décuplant le romanesque, le petit romanesque qu'on pouvait y trouver?
Alors, prendre le pas sur la vraie vie, ça, je n'en sais rien. En tout cas, ça a ouvert des possibilités. Je ne sais pas si je suis devenu plus coucheur à cause de Nicolas, sous l'influence de Nicolas, ou s'il est devenu plus assagi. Ça...
J'ai mentionné le terme de journal intime, mais au fond, la fiction apparaissant peu à peu, de faire non pas feu de tout bois, mais fiction de tout moment, qu'il y a des moments qui étaient apparemment pas romanesques d'ailleurs.
Ben, ce qui était important, c'était de ne pas s'ennuyer. Hein. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'était pas question d'écrire sur nos états d'âme, moi à Paris, Nicolas à Wellington. Ça aurait été sympathique, mais l'enjeu était... aurait été infime.
Oui, n'oublions pas que c'est un roman et qu'avant tout c'est une histoire qu'on raconte et du style, c'est des mots et une histoire et c'est l'histoire qui est prétexte à des mots à deux tempéraments différents et je parlais de grossir le trait, nos deux tempéraments effectivement très différents, nos deux caractères très différents sont ici élasticisés si je puis dire aussi à l'extrême, l'un comme l'autre. On joue chacun à notre propre caricature et il y a un effet comique qui naît de ça parce que le plus beau compliment, moi, en tout cas, que j'aime recevoir à propos de ce livre, c'est « Qu'est-ce que j'ai ri ?»
Alors, au départ, oui, vous dites que c'est une fiction, mais vous avez choisi de garder vos identités d'auteur, puisque c'est quand même Yegor Gran qui signe et Nicolas Fargue, chacune des lettres.
Oui, alors, on était un peu obligés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je propose ce jeu littéraire à Nicolas, il nous fallait vite trouver des points que nous avons en commun, et à peu près le seul point en commun qu'on ait, c'est qu'on est tous les deux écrivains. Et donc, on allait, je me suis dit, il était naturel qu'on allait jouer notre propre rôle, mais la vie est en fait de surprise. On va greffer ensuite tout un tas de choses.
Thomas Reverdy et Sylvain Vénère, puisque vous êtes aussi sur ce plateau, c'était aussi un livre à quatre mains, même si cette expression, là, on a essayé de la contourner tout à l'heure, mais vous ne vous êtes pas dit au départ, tiens, on va faire ce dispositif, vous avez choisi un autre dispositif, on y reviendra, mais de se dire, on va faire vraiment l'historien contre ou avec le romancier, dans une forme de dialogue plus systématisé.
Non, à vrai dire, c'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'au début, on avait imaginé d'autres possibilités narratives. Et en fait, plus narratives que ce qu'on peut lire là, avec des choses qui finissaient même par être tellement narratives que ça avait de grosses ficelles, parce qu'on était quand même bien obligé de respecter aussi la réalité, l'histoire, etc. Et du coup, ça nous paraissait artificiel. C'est pourquoi on est revenu sur une forme plus dialoguée, mais qui part de la fiction. C'était le point de départ, quand même.
Et c'était intéressant du point de vue, d'historien de voir justement à quel moment est-ce que le mensonge de la fiction allait retrouver la réalité de l'histoire. Mmh. Et le fait en particulier que la façon dont ces personnages rencontrent Dybowski, qui est un personnage ayant authentiquement existé à la fin du 19e siècle, est une pure mise en scène du roman. Mmh. Puisque ça s'est pas du tout passé comme ça dans la réalité, mais ça nous permet justement d'interroger un motif qui a joué un grand rôle et dans la vie de Dybowski et probablement dans l'histoire coloniale française, qui est le motif du hasard.
Alors le hasard, effectivement, il n'existe pas chez Fargue et Grane, et surtout le dispositif que vous avez choisi, Thomas Reverdy et Sylvain Vénère, d'une seule voix, vous évite finalement un danger, en tout cas un danger que vous ressentiez, Nicolas Fargue, c'est la possibilité de perdre un duel stylistique, puisque vous écrivez, je crains, quand il vous propose, Igor Grane, cette correspondance, vous à Wellington, lui à Paris, je crains de ne pas être à la hauteur. Tout semble si simple lorsqu'on te lit. Les formules cavalent toutes seules, ça fourmille de trouvailles, ça respire l'atypique, et surtout, on se marre. Chez moi, les mots ne décollent jamais tout à fait. Et on rit jaune. Il y avait cette peur, ou c'est une fausse peur, ou de jouer à se faire peur.
Non, c'est une vraie peur. Moi, j'ai lu tous les livres de Yegor. C'est quelqu'un que j'ai lu avant de connaître. Et j'admire son écriture. Je le dis pas parce qu'il est là. Je lui ai même écrit. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est en s'écrivant notre admiration, entre guillemets, mutuelle. Mais moi, j'admire notamment son style, qui est vraiment unique. Et qui, c'est un véritable inventeur, c'est un créateur. Et quand vous êtes en face de quelqu'un qui a sa langue, véritablement, bah, c'est intimidant. Surtout quand cette personne qui vous propose de jouer au tennis avec lui, quoi. C'est ça, d'échanger.
Alors, Igor Grane, vous aviez aussi ce respect, cette admiration
Oui, absolument.
Vis-à-vis de Nicolas Fargue parce que là on attend la réponse.
C'est pas le choix. Voilà.
Non, la condition de réussite de ce genre de projet tient en un mot, en fait. C'est bienveillance. C'est ce que j'ai dit à Nicolas quand on était vraiment au stade zéro. J'ai dit, ce livre ne va marcher que si on est bienveillant l'un pour l'autre. Il n'est pas question que chacun cultive le côté c'est moi le meilleur et puis je vais t'écrabouiller en montrant à quel point je suis plus imaginatif ou je ne sais quoi. Non, on est réellement en sollicitude littéraire. Et en effet, avec l'envie d'éblouir l'autre.
Et aussi de le motiver, on va vous écouter Igor Grane, et puis on écoutera Nicolas Fargue, lire un extrait d'Écrire à l'élastique. Vous essayez de motiver votre camarade Nicolas Fargue, qui n'écrit plus, quoi, alors qu'il devrait se mettre au travail.
Mais que fais-tu de ton métier? Pourquoi aucune écriture? On dirait moi. Sauf que j'ai des raisons objectives, moi. J'espère que tu ne me dis pas tout, et que dans quelques alcôves secrètes, au fond de ton iPad, tu bâtis plans et répliques, personnages et situations. Dans tout autre métier, ton inertie serait une marque flagrante de non-professionnalisme. Imagine-t-on un plombier transi qui ne déboucherait pas l'évier? Un comptable qui passerait son temps à regarder les nuages au lieu de placer la virgule des centimes? Je sais que nombre de nos lectrices s'imaginent que l'écrivain est une fragilité faite homme, que notre lyre ne teinte que dans des conditions particulières de température et de pression, que nous avons besoin d'intangibles alors qu'un bon hamburger fait très bien l'affaire en ce qui me concerne. Au boulot, mon vieux, je te rappelle que tu n'es pas en vacances. C'est tout le contraire. On t'a placé exprès dans une prison, résidence d'écriture. Le Randall Cottage Writers Trust a jugé que t'envoyer papoter avec le fantôme de Catherine Mansfield serait utile aux lettres françaises, et partant de là à la civilisation, car il est bien connu que la France est un phare qui guide les autres. C'est un honneur et une responsabilité. Sois-en digne, caporal Nicolas.
Voilà, et c'est vrai que vous avez dit prison, en fait, dans le texte. Prison est barré, et vous mettez résidence d'écriture à la place de prison. Maintenant, on va écouter Nicolas Fargue qui répondait à Igor Grane. C'est une interrogation sur l'écriture, on vous écoute.
C'est donc à cela que me servent mes personnages. Ils cherchent à me convaincre que la vie vaut la peine d'être vécue en y participant à ma place. Ainsi, samedi dernier, me suis-je contraint à enfourcher mon vélo et braver vent de face un Force 5 sur l'échelle de Beaufort, afin de faire comme tout le monde dans cette ville pendant l'été austral, aller me baigner puis me prélasser au soleil sur l'une des nombreuses plages qui ponctuent la sortie immédiate de Wellington. Sur ta carte, tu ajouteras une croix sur Oriental Bay. Sauf que dans ce secteur, les courants marins remontant directement de l'Antarctique, la température de l'eau plafonne à 16 degrés. 16 degrés, c'est ce stade où tu ne sais plus distinguer si c'est sur ton occiput ou sur ton coccyx que l'ennemi frappe le plus fort, sitôt que tu y as plongé la tête. Naturellement enclin à fuir toute forme d'inconfort, je me suis posé la question. Ton héros romanesque de 43 ans, lui, s'y risquerait-il ? Réponse immédiate, ne lui complique pas la vie, il ferait comme toi. Il exprimerait son peu de goût pour les complications et ne chercherait pas à jouer les héros. Il resterait sagement au sec sur la plage, à regarder les autres qui s'ébrouent, eux, sans s'encombrer d'une sombre histoire de filtre entre eux-mêmes et le monde. Il n'en ressortira peut-être pas grandi aux yeux du lecteur, mais au moins, cela sonnera-t-il juste sur le papier. On produit la littérature qu'on mérite.
On produit la littérature qu'on mérite, c'est bien dit. Est-ce que cet exercice d'écriture, on voit qu'il s'agit aussi d'une réflexion aussi sur le métier de vivre aussi, comme disait Pavézé, mais le métier d'écrivain qui se met sur le métier. Donc, est-ce que cet exercice d'écriture a été quand même, pour vous, qui vous définissez comme romancier de l'indétermination et de l'inconstance, l'occasion de creuser un peu plus ce rapport au double, qui est ici lui-même dédoublé, puisque vous dites, surtout vous, Nicolas Farr, que vos personnages sont souvent une excroissance ou un double de l'auteur, Nicolas Fargue. Mais là, en plus, vous confrontez un alter ego écrivain ou un partenaire écrivain. Est-ce que ça ne vous a pas forcé à explorer davantage la question du personnage romanesque ?
La question d'altérité tout court, parce que on est contraint, à partir du moment où on est deux, à mettre en scène des personnages dont on n'a pas décidé de l'existence soi-même tout seul, on est obligé de composer avec l'imagination et avec le caractère de l'autre. Donc forcément, c'est une incitation, c'est même une injonction amicale à sortir de soi-même. C'est ça aussi l'aventure de ce livre.
Igor Gran.
Oui, quand on prend le personnage principal féminin du livre, qui est Léonore.
Léonore et sa brosse à dents.
Voilà, Léonore qui fait souffrir Nicolas, qui l'obsède, qui le ramène, qui le tire vers Paris. Évidemment, moi, je la vois d'une manière différente. On s'est pas du tout appelé.
Oui, alors, vous la voyez, c'est ça. C'est parce qu'il y a un jeu un peu Merteuil-Valmont, peu à peu, où d'ailleurs, on sait pas qui est Merteuil, qui est Valmont, où il vous demande, ou vous lui proposez de rencontrer cette Léonore.
Oui, et d'essayer de la faire venir en Nouvelle-Zélande. Parce que je vois bien qu'il est bloqué. Moi, c'est mon ami, hein, donc je vois bien qu'il est bloqué dans la littérature. Ça m'ennuie, je vois bien qu'il est déprimé. Je vois cette photo de femme sur son portable et je me dis, mais c'est quand même fou, alors qu'elle l'a plaqué. Hein, donc il ne serait pas intéressé d'ailleurs par cette femme si c'était lui qui était parti. Non, bien sûr, il est, comment dire, se sent légèrement humilié et donc il y a une sorte d'envie de revanche. Et je me dis, je vais essayer de jouer le jeu, je vais essayer de voir cette Léonore et de la faire aimer Nicolas à nouveau.
Est-ce que du coup, parce que là c'est vrai, quand on lit ce passage-là, on se dit on est dans la fiction. Là il s'amuse, on se demande d'ailleurs si Léonore existe, en fait on s'en fiche d'ailleurs qu'elle existe ou pas, en tout cas on y croit, donc elle existe. Mais est-ce que, là vous diriez que cette écriture à deux vous a permis de sortir de vous-même, mais que ça a été finalement aussi une forme de défi littéraire pour stimuler une forme d'inspiration là purement romanesque. Pas juste s'explorer soi-même, mais vraiment un déclencheur de fiction absolument jubilatoire.
Dans mon cas, oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de pouvoir écrire sur n'importe quoi, en fait. Je n'ai pas l'habitude, dans mes livres, d'accorder une grande importance à l'histoire en elle-même. Ça ne m'intéresse pas tellement de raconter des histoires. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le forage, on va dire, psychologique, pour utiliser des grands mots, des personnages. Yegor, lui, m'invite à dire non, tu vas arrêter ton moi-je, ton nombril. Allez, moi, je t'emmène. Et c'est ce que je me suis laissé faire et que j'ai pris un plaisir incomparable à cette docilité-là. Merci, Yegor, pour cette promenade.
Moi, au contraire, c'était vraiment une douche froide, en fait, Nicolas, c'est-à-dire au sens hygiénique, c'est-à-dire qu'il refroidissait un peu mes envies d'inventer.
Dans le romanesque pur, ce que vous faites, par ailleurs, avec La Revanche de Kevin ou ONG, où le délire est souvent bienvenu.
Exactement, et donc ça me ramenait un peu à des préoccupations, on va dire, plus banales, et c'était très, très, très sympathique à faire.
Donc vous diriez, je vous cite Nicolas Fargue, un moment vous écrivez « Le bon côté, c'est que grâce à tes lettres, j'ai petit à petit appris à écrire sans trop y réfléchir. » Alors, il y a une part de coquetterie, mais il y a une part de sincérité aussi. Il y a une contamination, finalement, c'est ce que vous nous dites, stylistique, mais aussi sur le fond et sur l'imaginaire entre vous deux.
Ah, moi, je revendique absolument cette contamination. De mon côté, en tout cas, oui, réelle. Réelle. Quand je dis j'apprends à écrire, ce n'est pas faux d'une certaine façon. Apprendre à écrire, c'est libérer l'écriture. On ne cesse, même si on en est à son 11e, 12e, 13e livre, d'apprendre à se libérer. Vis-à-vis de l'écriture.
Yegor Gran, contaminez-vous aussi.
Je suis pas tout à fait. Moi, je pense que c'est une illusion parce que le roman a été abouti et donc maintenant qu'il est fini, on a l'impression qu'on a un petit peu fusionné. En réalité, je pense qu'on garde quand même jusqu'à la fin chacun nos spécificités et c'est ça qui est bon.
Alors un cas de fusion réussi totalement et assumé hein, en tout cas, c'est votre livre Thomas Reverdy et Sylvain Venère, Jardin des colonies, fait à deux, avec deux imaginaires, deux façons de s'exprimer. Il y a un seul narrateur, ça s'appelle Jardin des colonies. On va plonger à l'intérieur, d'abord on écoute votre choix musical. Alors qui a choisi Bill Callahan?
C'est moi, à vrai dire.
C'est vous. D'accord. Pour lui faire aussi une surprise comme
Non, pas vraiment. On m'a demandé une chanson liée à l'écriture en général ou à l'écriture de ce livre. Il se trouve que je l'écoute vraiment en écrivant et que, par ailleurs, c'est une chanson qui parle d'écriture.
Et vous ne la connaissez pas?
Pas du tout.
Pas du tout. Donc, vous allez découvrir, voilà, c'est une forme de cadeau. Bill Callahan, Too Many Birds. Et comme il s'agit d'un jardin, ça tombe bien.
Too many birds in one tree.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des Écrivains, par Christophe Onodibio.
Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves. The sky is full of black and screaming. And one more bird, then one more bird, and one last bird, and another, one last blackbird without a place to land, one last blackbird without a place to be.
Bill Callahan, Too Many Birds, c'est le choix de Thomas Reverdy pour Sylvain Venère, avec lequel il écrit Jardin des colonies, c'est chez Flammarion. C'est une chanson avec laquelle vous écrivez, Thomas Reverdy?
Oui, enfin ça fait partie des quelques chansons avec lesquelles j'écris. J'ai besoin que ça soit en anglais d'abord parce que les paroles me perturbent moins, et puis j'ai besoin que ce soit des musiques. Alors là, j'ai pris quand même une musique un peu folk pour que ça soit entraînant pour vos auditeurs, là. Mais disons que
c'est très paisible en même temps.
Voilà, c'est paisible, et puis c'est surtout composé d'une manière assez itérative. Enfin, je veux dire, c'est les phrases reviennent très régulièrement. Si on écoute la chanson jusqu'au bout, il y a même un jeu sur un vers qui se développe du premier mot jusqu'au dernier mot de la phrase, en se répétant à chaque fois et en s'augmentant. Et c'est une chanson qui parle de tous les oiseaux dont il est question, là, qui sont trop nombreux pour trouver une place dans l'arbre. Là, sont toutes les pensées qui le traversent au moment où il cherche à écrire une chanson et qu'il n'arrive pas à fixer le moment. Il faudrait que son cœur suspende son battement pendant un battement pour arriver à le fixer. Et c'est, voilà, je trouve que c'est une chanson qui parle d'écriture aussi d'une façon assez jolie.
Ce livre, Jardin des colonies, donc le cas que vous formez est un peu différent du cas Fargue-Gran dont on en a parlé. En effet, il s'agit pour vous de faire collaborer un écrivain et un historien. Alors, Jardin des colonies n'est pas un roman épistolaire. Il y a une seule voix, en fait, un seul narrateur. Il a 60 ans, il est écrivain, il a envie d'écrire un livre sur un aventurier qu'il a rencontré presque par hasard. Vous nous en parliez d'ailleurs, Sylvain Venère, du hasard. Il s'appelle Jean Dibowski, il est né en 1856, c'est un descendant d'aristocrates polonais exilés en France, et il a dirigé en 1891 une mission au Congo sur les traces d'une expédition précédente qui avait été massacrée par les locaux. Il a joué finalement un double jeu, c'est assez drôle d'ailleurs, puisque ça, le double jeu, c'est aussi le jeu que vous jouez, vous, avec ce livre avec deux auteurs. Double jeu, organiser des représailles face à ces gens qui avaient massacré les explorateurs. Et puis, une fois qu'il a été là, qu'il les a massacrés, glaner du matériel scientifique en envoyant plus de 2000 pièces à Paris pour fournir les collections botaniques, zoologiques et ethnographiques de l'Empire français. Auréolé du succès de son expédition, il est devenu le directeur d'un jardin tropical à la lisière de Paris et de Nogent-sur-Marne, où il organise l'exposition coloniale de 1907. Vous dites même que c'est le premier, finalement, producteur d'événements, on appellerait ça aujourd'hui de l'entertainment, parc d'attractions. Pour se documenter dans l'histoire que vous nous racontez, l'écrivain rencontre un jeune historien à la Cité de l'Immigration, hein, anciennement palais des colonies, palais permanent des colonies, et c'est l'occasion pour l'écrivain et le chercheurs, de converser, de débattre même sur des sujets d'histoire comme la conquête coloniale, mais aussi de ses répercussions dans le temps présent. Il est question d'immigration, il est question de racisme, il est question de terrorisme. Il est là, le terrorisme, tout au fond de ce livre. Ce qui est très différent du livre de Nicolas Fargue et d'Igor Gran, par définition, c'est que c'est une écriture en commun, mais qui apparaît comme unifiée, comme littéralement univoque. Le lecteur ne peut pas distinguer l'alternance des deux voix. Vous nous disiez que vous aviez travaillé, finalement, chacun reprenant le texte de l'autre, Thomas Reverdy.
Oui, c'est comme ça que ça s'est fait entre nous, que ça s'est construit petit à petit avec une grande confiance, la bienveillance dont parlait Yegor tout à l'heure, qui est effectivement absolument indispensable dans cet exercice-là et qui nous permettait chacun de revenir sur le texte de l'autre, de l'augmenter. Parfois, je commençais un chapitre, par exemple, parce qu'il y a un moment où on a fini par avoir un plan quand même, donc on savait à peu près où on allait. Et alors je disais à Sylvain, tiens, allez, je vais commencer le chapitre 24, t'as du matériel là-dessus, alors il m'envoyait des choses. Je commençais du coup à écrire avec du savoir historique, du matériel que moi j'avais pas récolté, qu'il avait récolté aux archives, etc. Enfin, dans ses livres, là, si je puis dire. Et puis ensuite, je lui envoyais, et là, il corrigeait, parce que évidemment, moi, je me laissais emporter. Parfois, je me mettais à dire des bêtises. Donc, il disait, ben non, ça, on peut pas le dire. C'est un truc qu'un romancier peut pas penser d'habitude.
Sylvain Venner, quel était l'enjeu de ce texte? Vous n'avez pas uniquement été le grand documentaliste. C'est vous qui avez trouvé Jean Dybowski, hein,
personnage. Oui, mais en fait, ce que racontent nos personnages est faux. C'est-à-dire que l'enjeu n'était pas du tout de travailler sur Jean Dybowski. L'enjeu était de travailler sur ce jardin que moi, j'aime beaucoup. J'habitais à côté, j'ai longtemps habité à côté de ce jardin que j'avais fait découvrir à Thomas. Et c'est le jardin qui nous a emmenés à Dybowski, qui nous a emmenés ensuite à la question de la mémoire coloniale. C'est tout à fait une autre histoire. Et puis, par
donc
rapport
à... l'enjeu, c'est le jardin en départ. C'est quoi? C'est non. D'offrir un livre à ce lieu? Parce que j'ai pensé au livre de Pierre Nora, lieu de mémoire aussi, en le lisant.
Oui.
Si, vous souriez, vous avez l'air gêné, pourquoi?
Non, parce que, par exemple, un des reproches qui a été fait au livre de Pierre Nora sur les lieux de mémoire était de ne consacrer aucune entrée, justement, ou presque, à la mémoire coloniale. Mmh. Il y a juste une entrée sur l'exposition. C'est un problème aujourd'hui, cette question de la mémoire coloniale, et on avait décidé de l'aborder à partir de l'expérience de ces personnages, qui sont à la fois plus vieux et plus jeunes que nous, et qui défendent finalement des idées que ni Thomas ni moi ne défendrions. C'est-à-dire que le vieil écrivain est un peu décalé par rapport à ces problèmes-là. Il appartient à un autre monde, en réalité. Et le jeune, dont on apprend dans le livre que sa famille vient des anciennes colonies, propose également un regard sur le monde qui est très différent. L'entrée par la question du roman d'aventure n'est pas un simple artefact littéraire. Moi, mon premier livre qui était issu de ma thèse, c'était un livre qui montrait justement que ce qu'on appelle l'aventure, c'est quelque chose qui a une histoire. Que ce qu'on se représente comme étant l'aventure, c'est quelque chose qui émerge en gros au tournant des 19e et 20e siècles et en relation avec ce grand mouvement d'exploration et de colonisation. Et l'enjeu du livre, le problème qu'a cet écrivain, c'est que lui, finalement, il est vieux, il aimerait bien écrire un roman comme on pouvait l'écrire au temps de Joseph Conrad, sauf qu'en fait, c'est impossible. Et c'est impossible pour des raisons qui tiennent à la puissance de la mémoire coloniale et au renouvellement des problématiques aujourd'hui.
On va l'écouter, cet écrivain, Thomas Reverdy.
Ne manque plus qu'une femme à demi nue et un coucher de soleil. Dans les années 30, la littérature populaire était déjà tellement saturée de cet exotisme qu'elle a commencé à envoyer ce genre de héros dans l'espace, sur Vénus ou sur Mars. Impossible d'écrire dans ce brouhaha. Impossible ou inutile d'écrire ce genre de roman après Conrad, le grand Joseph Conrad. Je ne crois pas que quelqu'un y soit parvenu après lui, ou alors sous des formes parodiques, ou plus ennuyeux, ironiques. Il y a pire que cette abondance de récits. Après tout, on écrit encore des histoires d'amour. Il y a pire et ce sont les discours. Tout ce qu'on croit savoir et qu'on a dit sur la France et ses colonies, sur les empires en général. Et pas seulement ce qu'on en a dit alors, mais peut-être surtout ce qu'on en dit aujourd'hui. Que la mission civilisatrice, la grandeur d'un empire républicain, la soif de découverte, les progrès scientifiques, tout ça, c'est de l'hypocrisie. Un vernis de bonne conscience pour habiller l'avidité, l'exploitation, le racisme.
Et Sylvain Venner prend la suite.
Un roman d'aventure aujourd'hui. L'entreprise n'est pas seulement littérairement impossible, elle est historiquement coupable. Le foutu débat et ses enjeux stupides transforment tout en thèse. Tout devient pour ou contre, comme si cette question avait un sens. Chaque choix de personnage, de situation, chaque adjectif est un piège. Tintin au Congo se vendra bientôt sous blister. On a tort, quoi qu'on fasse, et la lecture, conspirationniste, finira toujours par nous reprocher quelque chose. Pourtant, la dénonciation de l'Empire, ça ne fait pas un roman. Un roman, ce sont des voix, des corps, un espace, des motifs. Il y a bien des choses qui peuvent définir un roman, mais pas une thèse à défendre. Tous les romans à thèse sont bons à jeter.
Merci Sylvain Venner. Donc, extrait de Jardin des colonies que vous signez avec Thomas Reverdy. Qu'est-ce qui fait dire à votre personnage que le roman d'aventure serait mort aujourd'hui parce qu'il serait peut-être un roman à thèse, c'est ça? Pourquoi dire qu'il est mort et pourquoi un roman d'aventure serait aussi un roman à thèse?
Il est mort sous sa forme du 19e siècle, sous la forme dont parlait encore Malraux dans Les Antimémoires en réalité. Parce que ce sont toujours, ou presque, des personnages d'hommes blancs qui partent d'une certaine façon à la fois à la recherche d'eux-mêmes, évidemment, c'est le sens même de la quête de l'aventure, mais en réalité aussi à la conquête d'un monde qui est également une conquête politique et militaire.
Et il ne s'est pas rebellé, Thomas? Vous ne vous rebellez pas quand il dit ça? Au nom de la liberté du romancier?
On partage quand même.
C'est l'historien qui a parlé.
On ne vient pas des mêmes champs, mais on partage un certain nombre de références et qui nous aident justement, je pense, à écrire ensemble et à composer avec les mêmes motifs. Et entre autres figures littéraires que j'admire, moi, il y a un des écrivains qui, me semble-t-il, enterre le roman d'aventure au début du XXe siècle, qui est Henri Michaux, qui arrive en Équateur et qui devant la cordillère des Andes dit les Andes de la terre quoi. Il dit que
mais c'est pas politique ça.
Il attendait des tigres et puis il a des sangsues. Il attendait des lions, des dangers exotiques et périlleux. Et puis en fait il est embêté parce qu'il a la fièvre et donc il tue l'exotisme. Et c'est ça ce qu'on dit au début là, c'est que le récit d'aventure il est lié à un exotisme qui en fait fait partie du monde colonial et qui en tant que tel n'existe plus quoi.
Mais Sylvain Venner, vous parliez plus de la morale ou de la morale historique.
Oui, parce que cet exotisme c'est un point de vue, c'est-à-dire l'exotisme c'est le point de vue européen sur le monde. Ce que dit Michaud dans Équateur quand il a cette formule vraiment décapante, quand il dit la terre est rincée de son exotisme, c'est la mort en fait d'un certain type de récit de voyage. Le projet qu'on conduit, que conduisent nos personnages, même si eux, en fait, n'en sont pas complètement conscients, finalement se découvre quand ils parlent de Moby Dick, à la fin du livre, puisque dans ce jardin incroyable, il y a des côtes de baleines qui servaient en fait à faire un grand portique à la Belle Époque. Et Moby Dick, la question qui se pose à tous les deux, c'est que le vieil écrivain considère que c'est un livre qu'on ne lit plus aujourd'hui parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de références, en plus il s'agit de tuer des baleines. Et en même temps, il se rend compte, en discutant avec son nouvel ami, ce jeune historien, mais peut-être qu'au fond, ce qui serait intéressant, et ce que peut-être ce jeune homme ferait en lisant Moby Dick, ça n'est pas de le lire à partir d'Akab, ou même à partir de Ismaël, mais de le lire à partir de Queequeg. Et de se retrouver, d'une certaine façon, dans une opération qui consiste à décentrer le regard du lecteur.
Vous le rappeliez, Sylvain Venner, en plus, il s'agit d'y tuer des baleines. Ce qui explique évidemment, dans le contexte actuel, gros problème aussi de morale. Est-ce que votre duo, finalement, s'est aussi constitué, pour faire ce livre évidemment, mais pour souligner une forme de responsabilité conjointe aujourd'hui de l'écrivain et de l'historien de rétablir au fond un discours nuancé sur l'histoire qui ferait que, qu'on ne peut plus faire ce roman d'aventure comme on le faisait?
C'est sûr que c'est un des enjeux spécialement sur l'histoire coloniale, quoi, d'arriver à tenir la voix du milieu, le discours mesuré, nuancé, documenté. C'est ce que personne ne veut entendre. Politiquement, par exemple, les gens ont beaucoup plus à gagner, à brandir d'un côté comme de l'autre, disons, de l'extrême droite aux indigènes de la République, des contre-vérités abominables pour exciter la colère ou le désir. Et en fait, la voix du milieu, périlleuse, c'est la plus finalement, c'est la plus juste, mais c'est la plus périlleuse en fait, parce que
une des raisons qui justifie l'association de l'histoire et de la littérature, c'est que l'enjeu de ça, c'est la mémoire. Et je ne pense pas, par exemple, contrairement à Pierre Nora, que la mémoire soit l'affaire des historiens. C'est quelque chose qui se partage et sur quoi l'écriture romanesque a quelque chose à dire.
Alors en même temps, qui croire dans votre livre, je voudrais qu'on termine là-dessus, parce qu'il y a des échanges entre ces deux. Il y a qu'une voix, il y a qu'un narrateur, mais qui échange et qui débat avec ce jeune historien. Et à un moment, il regarde une liste qui se trouve sur ce palais des bienfaiteurs de l'Empire français parce qu'ils ont augmenté les limites de la France. Et c'est ça. Enfin, je parle sous votre contrôle. Et puis il y a Godefroy de Bouillon. Et là, vous tous les deux convoquez une sorte de personnage d'un jeune garçon. Qui serait là, c'est l'historien qui parle. Vous imaginez un des jeunes qui visite l'expo sur le football, qui a lieu ici, qui fait comme nous le tour du bâtiment, qui regarde ce bout de façade et se demande « Tiens, ça leur venait d'où cette idée de coloniser le pays de mes ancêtres, de telle sorte que je me retrouve moi aujourd'hui dans cette banlieue pourrie, avec des parents au chômage et un prof imbécile qui me fait visiter des conneries sur l'immigration, parce qu'il sait bien que je n'en sortirai jamais, pas avec 3 millions de chômeurs et 55 millions de racistes. » Et l'écrivain dit « Enfin, on ne peut pas dire ça. » Vous l'imaginez, ce gamin, n'est-ce pas ? Reprend l'historien. Eh bien, imaginez sa réaction lorsqu'il découvre que, conformément à tout ce qu'il croit savoir de pire sur le complot blanc, le premier colon, le modèle, c'est un croisé. Mais c'était en 31. Oui, mais aujourd'hui, on a besoin de l'expliquer pour aujourd'hui. Ça suffit pas de dire « c'était en 1931 », parce que personne ne sait plus trop ce que ça veut dire, vivre en 1931. Vous savez peut-être, vous êtes un écrivain blanc, un anti, un membre de l'élite. Si ça se trouve, vous êtes même franc-maçon. Donc on voit totalement l'exagération, mais on se demande qui croire. Un des chapitres suivants, l'écrivain dit « je ne respecte rien ». Un écrivain, c'est quelqu'un qui ne respecte rien. Et curieusement, Sylvain Venner, l'historien cite Jules Michelet, le grand historien, qui dit « l'histoire, qui est le juge du monde, a pour premier devoir de perdre le respect ». Donc finalement, on se demande qui croire, et puis on s'aperçoit que c'est qu'ils se réunissent dans la notion « ne respectons rien ».
Je crois que c'est aussi ce qui nous a fait écrire ensemble et choisir la forme du roman. C'est-à-dire que la forme du roman, par rapport à un essai, elle permet justement d'interroger, sans forcément proposer de réponse. Elle permet de faire entendre des voix, des discours, des opinions qui sont pas toujours justes, qui sont pas toujours celles qu'on adopterait nous, mais de les faire entendre pour qu'elles questionnent. C'est autant le passé qui questionne le présent, quelle influence ça a, machin, etc. C'est une question un peu banale. Mais c'est aussi le présent qui s'interroge sur son passé et qui s'interroge sur ce lien. Le jardin lui-même, dont on est parti, un lieu, un espace réel que tout le monde peut aller voir, ce lieu-là est étonnant par sa forme. Ce sont des bâtiments en ruine qui ne sont même pas des vrais bâtiments puisque c'était des bâtiments d'exposition. Donc c'est comme une espèce de parc d'attractions du monde colonial en ruine, envahi par le lierre et les bambous.
En fait, toute l'interrogation du livre, on peut la retrouver au Palais des Colonies ou dans le jardin ou partout ailleurs, c'est ce que manifeste ce jardin qui tombe en ruine, ce que manifeste le fait d'avoir laissé quand même, c'est incroyable, Godefroy de Bouillon cité comme nom des grands hommes qui ont fait aimer le nom de la France outre-mer. Actuellement, tout le monde peut lire ça sur le Palais des Colonies. Et la question, c'est ce que défendent nos personnages, et de façon outrancière, et l'un et l'autre, c'est pour le jeune, il faut changer tout ça. Il faut réorganiser un immense parc d'attractions, changer la place de la statue, etc. Et pour le vieux, au contraire, une sorte de nostalgie du roman d'aventure d'antan. Et nous, ce qu'on veut juste dire, c'est ce que le jeune appelle le bordel mémoriel. Aujourd'hui, il faut s'en saisir.
Mais en même temps, ne rien respecter. Il y a quand même cette leçon-là, finalement, où les deux se rejoignent là-dessus.
Oui, on ne peut pas respecter ce qui a été écrit en 1931 sur le Palais des Colonies.
Alors, les uns et les autres, finalement, vous avez goûté à cette expérience d'écriture en commun. Est-ce que c'est une drogue à laquelle, ou un confort peut-être, ou un défi auquel vous avez pris goût, ou vous allez revenir finalement à l'activité solitaire de l'écrivain, Thomas Reverdy ?
Non, c'était très agréable. D'ailleurs, je pense que si ça s'était mal passé, on se serait beaucoup moins parlé ensuite. Voilà, je pense que ça ne peut que consolider les liens qui existaient déjà.
Oui, contrairement à Nicolas Yegor, nous, on n'est pas devenus amis en faisant le livre. Par contre, on courait le risque de briser notre amitié en faisant le livre.
Nicolas,
moi, je dis pourquoi pas.
Moi, j'en sais rien. C'est agréable, mais peut-être que c'est trop facile, alors. beaucoup.
Bah, ça sera, voilà, effectivement. Donc, vous plaidoyez pour la difficulté de la littérature. Merci à tous les quatre. Je rappelle les titres de vos ouvrages, de vos livres. Écrire à l'élastique, c'est Nicolas Fargue et Yegor Gran. C'est chez POL. Au revoir, messieurs.
Au revoir.
Au revoir.
Et Thomas Reverdy et Sylvain Venère, Jardin des colonies, c'est chez Flammarion. Au revoir, messieurs.
Au revoir. Au revoir.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Anna Torres de la librairie Les Éditeurs Associés, 11 rue de Médicis et dans le 6e arrondissement à Paris. Bonjour Anna Torres.
Bonjour.
Alors les éditeurs associés pour un libraire, expliquez-nous.
Oui, donc les éditeurs associés, c'est une association d'éditeurs, comme le nom l'indique, qui a été fondée par 4 maisons d'édition indépendantes, donc Chandaigne, Esperluette, Point de Suspension et À Propos, dont le but est de mettre en avant leur travail et faire rayonner l'édition indépendante. Donc ça passe par des événements, des rencontres et surtout la librairie, qui est un lieu physique pour montrer leur catalogue, ainsi que le catalogue d'une quarantaine de maisons d'édition indépendantes.
Alors précisément, vous avez choisi un ouvrage de la maison À Propos, vous avez choisi de nous parler de Nadar, Quand j'étais photographe. C'est d'ailleurs, on le découvre, Nadar, écrivain aussi.
Oui, c'est vrai qu'on le connaît surtout comme étant photographe et un
grand
des plus
grands écrivains.
Exactement. Et on connaît moins son travail d'écrivain. Il a été journaliste, il a été caricaturiste et surtout, il a écrit pas mal de récits. En 1900, alors qu'il est âgé de 80 ans, paraît un recueil en fait qui regroupe des récits qu'il a rédigés dans les années 90 et qu'il avait publié dans la revue Paris Photographie, tenue par son fils. Donc, il y a environ 14 textes, anecdotes, dont Nadar a été le témoin, ou plus souvent l'acteur, qui répond en fait, qui prétend répondre à des mémoires, mais qui sont plutôt en fait un tableau vivant
de l'époque. Donc on croise, je suppose, les grands écrivains de l'époque.
Oui, on croise Balzac, par exemple, qui était assez effrayé de la photographie, qui pensait qu'on pouvait lui retirer une partie de son âme.
Ah oui.
Oui, c'est assez drôle. C'est la première nouvelle du recueil. Ou sinon, après, en fait, dans la dernière, on voit le portrait d'un Paris des années 1830, où on découvre en fait plein de personnages qui sont encore de jeunes acteurs, mais qui, à la fin, deviennent de grands noms, comme par exemple Alexandre Dumas, qui sont encore des jeunes premiers quand Nadar les rencontre.
Donc, c'est vraiment témoin de son époque. Comment c'est écrit? C'est vrai, on s'interroge, Nadar, le grand photographe, il écrit comment? Alors, c'est drôle, c'est vivant, c'est
alors,
sec
Oui, c'est vraiment très drôle. Il a une manière de présenter les choses de manière très, très vivante, en fait. Et on se sent vraiment porté dans l'histoire. Par exemple, il y a une nouvelle où il raconte la première épreuve de photographie dans les airs, on est avec lui dans la Montgolfière. Mmh. Où il fait une visite avec une jeune amie des catacombes, parce qu'il veut faire des photographies dans les catacombes. Et c'est à la fois très drôle, très mystérieux, on est vraiment porté dans son récit.
Avec des photos, des photos de Nadar.
Avec des tirages de Nadar qui illustrent chaque nouvelle, ou des gravures d'époque pour vraiment illustrer le propos.
Et ben c'est parfait, ça donne très envie. Nadar, Quand j'étais photographe, texte intégral commenté par Caroline Laroche. Mmh. Et c'est aux éditions... À propos, vous vouliez, Anna Torres, nous parler d'un événement en fait, qui va se tenir dans votre librairie.
Oui, un événement qui va se tenir en fait. Donc, comme je disais précédemment, les éditeurs associés, c'est la librairie, mais c'est également un festival, le Festival Raccord, dont le temps fort aura lieu du 19 au 23 avril. Donc, il y aura un événement, par exemple, avec Nadar à la Société française de photographie, les 21 et 22 avril. Donc, il y aura une conférence avec des lectures et une exposition des tirages de Nadar. Mais il y aura également des rencontres musicales, une comédie musicale, des dégustations littéraires, des pique-niques, des rencontres avec des illustrateurs, des ateliers. En fait, le but de ce festival est de raccorder le livre à une autre forme d'art.
Eh ben, c'est merveilleux ça. Merci beaucoup Anna Torres de la librairie Les Éditeurs Associés, 11 rue de Médicis et dans le 6e arrondissement. Donc le festival commence...
Le temps fort, le 19.
19 avril. Donc,
oui, voilà, n'hésitez pas à aller sur
dans quelques jours. Exactement. Votre site,
oui,
les libraires...
Donc c'est www.leséditeursassociés.com et il y a le programme de l'intégralité du festival.
Eh bien, parfait. J'invite les auditeurs à pousser passer la porte de votre belle librairie. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec Philomène Villard, Anne-Laure Chanel, Pascal Bénard à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Cette émission sur écrire à quatre mains avec Yegor Gran, Nicolas Fargue, Sylvain Venère et Thomas Reverdy.